Il est 17h à Niamey, fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue au journal en français du studio Kalangou, présenté ce soir par Samira Wafi. Voici les titres. Bientôt la fête de l'Eid el-Fitr qui sanctionne la fin du mois de Ramadan. Quel comportement le fidèle doit adopter en ce jour spécial? La réponse avec une prédicatrice dans un instant. Toujours dans ce journal, des migrants nigériens déclarent avoir subi de mauvais traitements lors de leur refoulement de l'Algérie. À suivre ceci à leur arrivée à Agadez. En partie magazine de cette édition, le 30e anniversaire du génocide au Rwanda. Thierry Cruvelier de Justice Info et au Rwanda à suivre son entretien avec Ternan Foudey.
Yande sappo jeddi min ta chapantati studio Kalangu habaruji fulfulde kol janyale mo min sima namad ni janganta on kibaruji di fulfulde
inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Cette voix est celle de notre confrère Soumana Amadou, journaliste et responsable du desk Fulfulde du studio Kalangou. Il nous a quittés hier dimanche 7 avril 2024. De son vivant, Soumana Amadou était un pionnier du studio Kalangou et y travaille dès son installation au Niger jusqu'à son décès ce dimanche 7 avril. Il a été enterré ce matin à Niamey, paix à son âme. Le jour de l'Eid el-Fitr marque la fin du jeûne du mois de Ramadan pour tous les musulmans pratiquants. Alors, quel comportement doit adopter le fidèle en ce jour spécial? La prédicatrice Oustaza Ouma Kaltoum Daouda donne des précisions au micro de Hawa Ousmane.
À la fin du mois béni de Ramadan, nous devons nous souvenir d'une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muqadda ou la fête de l'Eid el-Fitr. Il est recommandé aux musulmans en ce jour spécial de manger ne serait-ce que 3 dates avant de quitter la maison pour se rendre à la grande prière, tout en récitant des invocations. Il est important pour le musulman de rester à la fin de la prière pour écouter la khutbah. Ensuite, on procède aux vœux de bonnes fêtes entre les amis, les connaissances et les familles. La prière de Eid est recommandée pour tous les musulmans. Le jour de la fête, c'est un grand jour. Tous les musulmans doivent se réconforter et vivre ces moments heureux et pleins de bénédictions.
Après le comportement à tenir après la fête, parlons santé dans le même cadre. Après le mois de jeûne fait d'abstinence, l'organisme est confronté à un changement, une situation qui mérite un temps d'adaptation avant le retour à la normale. C'est pourquoi les spécialistes en nutrition conseillent pour une alimentation modérée. Abdulrazak Bello, nutritionniste, donne quelques conseils. Il est au micro de Hassan Nourou Abdurrahman.
S'alimenter, que ce soit en période de Ramadan ou en période hors Ramadan, ce sont les mêmes principes. Il faut que la personne puisse avoir une alimentation équilibrée qui va lui apporter des vitamines, des sels minéraux, des protéines, de l'énergie et tous les éléments dont l'organisme a besoin. Sauf qu'il y a juste après le Ramadan, du fait que nous avons acquis une nouvelle habitude qui consiste à ne pas manger dans la journée et à manger surtout la nuit. Donc dans les premiers jours après le Ramadan, nous allons être généralement confrontés à un problème d'appétit, ce qui fait qu'on a du mal à manger à midi. Mais le conseil que je donne, c'est vraiment d'éviter la consommation de médicaments pour retrouver l'appétit. C'est juste une phase d'adaptation. Et après cette phase d'adaptation, l'organisme va revenir à ses anciennes habitudes qui consistent à manger dans l'après-midi.
Plus de 1500 migrants nigériens refoulés de l'Algérie sont arrivés le dimanche 7 avril 2024 à Agadez. Ces derniers disent avoir subi de mauvais traitements lors de leur refoulement en terre algérienne. On les écoute au micro de Moussa Maman.
Ils ont pris notre argent, nos portables. Ensuite, ils nous ont refoulés.
Ils nous ont dépouillés de nos biens. Nous avons souffert des violences policières. Même les femmes n'ont pas échappé à cette violence. C'est vraiment abominable ce qu'ils font subir aux gens. Surtout quand ils rentrent dans les maisons. Ils te frappent pour rien. Devant moi, ils ont blessé au moins 8 personnes. Présentement, mes parents ne savent pas dans quelle situation je me trouve.
Vraiment, nous vivons une situation très critique. Présentement, nous avons voyagé avec au minimum 30 personnes qui ont des fractures, y compris des gens qui ont reçu des coups. Il y a même d'autres qui vomissent du sang.
Nous ne faisons pas du trafic de la drogue. C'est bon d'arrêter la personne en respectant sa dignité, car elle n'est pas dans son propre pays. On peut refouler la personne, mais pas en tant que trafiquant.
Retour à Maradi où de nouveaux réfugiés affluent vers les villages de la commune de Tibiri depuis le début du mois de mars. Au nombre de plus de 700 personnes, elles ont fui leur village du Nigeria suite aux attaques des hommes armés et sont installées dans le village d'opportunité de Chadokori. Ces personnes sont déjà soutenues par le NRC et le PAM, selon le directeur départemental de l'état civil des réfugiés de Guidangoumji, Maman Rabiu Moussa Magaji. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous avons estimé aujourd'hui 45 ménages qu'on va acheminer. Nous avons 208 ménages de 781 personnes que nous avons amenés à Chadokori. Il y a l'ONG NRC, Conseil norvégien des réfugiés, a pris en charge la construction des abris d'urgence parce que depuis la semaine passée, nous avons eu l'appui aussi des PAM qui a fait une distribution pour que ces gens-là arrivent à subvenir à leurs besoins. D'après ce qu'ils nous ont dit, leurs villages ont été attaqués. Nous, on a recensé 9 villages au côté Nigeria. Il y a des villages même qui ont quitté carrément, il n'y a personne. Le site a une capacité de plus de 7000 personnes. Nous avons 3970. Cela voudrait dire qu'on peut ajouter d'autres personnes.
Cérémonie de remise d'appui humanitaire hier aux ménages des éleveurs déplacés de Gaïa. Cette initiative fait suite au récent affrontement entre agriculteurs et éleveurs survenu le 25 mars 2024 à Garou, au Bénin, ayant entraîné le déplacement de 278 ménages, soit environ 1333 personnes dans le département de Gaïa. En réponse à la requête du gouverneur de Dosso, des quantités de vivres et de kits non alimentaires ont été mises à disposition pour venir en aide aux ménages déplacés. Moussa Saïdou, secrétaire général de la préfecture de Gaïa, donne des précisions au micro de Fadel Alou.
Au total des personnes déplacées, c'est 278 ménages. Et les 278 ménages, là, ils sont répartis au niveau des deux sites. Il y a le site de Passédé dans la commune urbaine de Gaïa et le site de Gatouani dans la commune rurale de Tounouga. Donc pour ces deux sites, nous avons reçu les quantités suivantes. Pour Tounouga, le site de Gatouani, 13 tonnes de mil, 325 litres d'huile, 325 kg de sel, 130 pagnes à tampa. Maintenant, pour le site de Gaïa, nous avons reçu aussi 14,8 tonnes de mil, 370 litres d'huile et 370 kg de sel et 148 pagnes à tampa. C'est un premier geste, ce qui est sûr, nous attendons aussi beaucoup d'autres appuis.
Nous parlons également éducation dans ce journal. Élèves et enseignants entameront bientôt le troisième et dernier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Dans plusieurs établissements de la région, le taux d'exécution du programme tourne autour de 60 à 80%. Dans la ville de Zender, le taux lui est à 40%. L'abandon des enseignants du public au profit du privé est la cause principale de cette baisse selon Idi Adamou, directeur régional de l'éducation de Zender. Il est au micro d'Ali Keïta.
Le taux d'exécution de programme à la fin de ce deuxième trimestre de l'année. Au niveau de l'enseignement primaire, nous avons reçu des inspecteurs et des conseillers pédagogiques un taux d'exécution qui va au-delà de la moyenne. C'est entre 60-70%. Et dans certaines contrées ou localités, nous avons même à peu près 80% de taux d'exécution du programme. Au niveau du secondaire et de l'enseignement professionnel, à la date de février et début mars, nous avons à peu près 50% du taux d'exécution. Donc, ce taux d'exécution est très bas. La semaine passée, nous avons tenu un forum à la mairie où, là, le taux d'exécution, ce qui est un peu miraculeux et étonnant, c'est qu'il ne dépasse jamais 40%. Bon, ils nous ont fait comprendre que c'est des situations de janvier. Donc, normalement, eux aussi, ils devraient être à 50 à 60%.
Direction Agadez, plus précisément à Arlit, où certains citoyens de la ville font face à un manque extrême d'eau dans certains quartiers. Souvent, plusieurs semaines sans une goutte d'eau à la pompe en cette période caniculaire à laquelle s'ajoute le mois de Ramadan. On écoute quelques citoyens rencontrés par Abdoulaye Moutari.
Ce matin, j'étais obligé d'aller voir les enfants pour trouver de quoi acheter 5 tonneaux. Sur les 5, j'ai gardé un tonneau pour la famille. Le reste, c'est les voisins qui venaient chacun avec son récipient pour prendre de l'eau. Et c'est quoi le problème? Il faut trouver une solution. Si c'est une panne, expliquez ça à la population. On est dans un mois difficile et la vie coûte cher.
Hier, on n'a pas eu l'eau. Avant-hier, même chose. Tout celui qui s'habitue à avoir l'eau dès qu'il ouvre les robinets et ne paye qu'à la fin du mois n'est pas comprendre cette situation. Entre hier et avant-hier, j'ai dépensé 4000 francs dans l'eau. Et là, tu me demandes si je souffre. Mais je souffre, ça se voit.
Ça devient compliqué. Tout est cher. Il n'y a pas d'eau. Où vont-ils nous amener? Il faut que le préfet se penche sur cette question. C'est vraiment un grand problème. Tu peux vivre sans manger, mais ne pas vivre sans boire de l'eau.
En ce moment de Ramadan, les services d'hygiène et d'assainissement de la commune de Tessawa lancent un appel à l'endroit de la population, être vigilant dans la consommation des jus. Les services ont constaté sur les marchés et dans certaines boutiques que plusieurs produits sont périmés. L'objectif est de bien sécuriser la santé des populations. Abdelaziz Mamandi Mati, chef des services d'hygiène et d'assainissement de Tessawa, est au micro d'Ilia Momouni.
Nous avons saisi beaucoup de produits, surtout des jus avariés. Pourquoi le jus? Parce que ça a un temps. Si ce n'est pas dans le mois de Ramadan, les gens n'en consomment pas. Si on n'arrive pas à écouler ça pendant 2 ans, ça devient périssable. Sinon, l'appel que je lance à la population de Tessawa, c'est d'être vigilante à la date de péremption. Il y a des produits périssables chaque année. Donc, tout produit dans la date de péremption finie, dans le mois de mars par exemple, il ne faut pas l'acheter. Venez dénoncer les commerçants.
Place à la partie magazine de cette édition. Hier dimanche 7 avril était l'anniversaire du génocide rwandais qui s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994. C'était l'un des génocides cruels que l'humanité ait connu au XXe siècle. Malgré tout, le Rwanda a pu se construire. Il est parvenu à mettre en place une justice qui a jugé les coupables. Pour en savoir plus sur le génocide et cette justice, suivons cet entretien que Tarnan Foudé Ahmed a eu avec Thierry Cluvelier, rédacteur en chef de Justice Info et média de la Fondation Hirondelle, qui assiste cette semaine au 30e anniversaire des événements.
Le génocide des Tutsis au Rwanda est celui qui a été le plus jugé dans l'histoire de l'humanité. En 3 mois, environ 800 000 Rwandais ont perdu la vie. Grâce à la justice, les Rwandais ont jugé le coupable. Thierry Grivelier, rédacteur en chef de Justice Info, explique.
Le Rwanda a inventé quelque chose qui n'existait pas et que l'on croyait impossible. C'est la justice de masse après un crime de masse. 1 million de Rwandais ont été jugés au Rwanda devant les tribunaux nationaux et surtout devant les fameux Gacaca, 12 000 tribunaux populaires installés à travers le pays. Le fonctionnement ensuite de ces tribunaux est souvent critiqué. Il a été d'abord très difficile à accepter pour les rescapés, en tout cas au début, et douloureux pour les personnes accusées à tort, évidemment.
Au-delà des frontières rwandaises, les personnes impliquées dans ces génocides n'ont pas échappé à la justice. En novembre 1994, l'Organisation des Nations Unies a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Thierry Grévillier explique comment ce tribunal a fonctionné.
Le génocide a aussi été jugé par un tribunal international de l'ONU qui était basé en Tanzanie, à Arusha. Et en 20 ans, ce TPIR, comme on l'appelle, a jugé seulement 75 individus. Mais il a pu juger la plupart des hauts dirigeants politiques ou des médias du Rwanda à l'époque. Et il a au moins permis, disons, la reconnaissance judiciaire de l'existence du génocide. Et ensuite, sur le plan politique, c'est l'élimination aussi des tenants de l'idéologie Hutu Power.
Envoyé dans plusieurs pays africains, dont le Niger, bien qu'ils soient acquittés et ayant purgé leur peine, les auteurs de ces génocides n'ont jamais accepté qu'ils étaient des génocidaires. Une triste histoire, selon Thierry Grévillier.
L'histoire de l'envoi au Niger de ces Rwandais qui en fait avaient été acquittés par le TPIR, qui avaient déjà purgé leur peine. C'est une triste saga. Le Niger signait un accord avant de le renier quelques semaines plus tard. Tout le monde s'est trouvé dans une situation assez piégée. Je crois que c'est un peu la triste leçon de cette histoire.
Le Sahel connaît le terrorisme depuis quelques années. Peut-on construire une justice en se basant sur les modèles rwandais et son tribunal pénal international? Thierry Crivillier répond.
C'est difficile aujourd'hui de créer un nouveau tribunal international sur le modèle TPIR. Comme vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de consensus au niveau du Conseil de sécurité. Il est pratiquement impensable aujourd'hui qu'un tel tribunal soit voté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc non, je pense que ce modèle actuellement n'est pas envisageable.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée.